Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Voilà, et ben nous la retrouvons, mais nous avons l'habitude, le docteur Nathalie Shapiro. Bonjour, docteur Shapiro.
Bonjour, docteur Labesca.
Alors, vous êtes journaliste santé, bien-être, environnement, animaux aussi, on vous lit dans plusieurs médias, et vous nous faites toujours vos chroniques, toujours aussi savoureuses et qui plaisent de plus en plus à nos auditeurs. Alors aujourd'hui, vous avez commencé par un sujet grave et qui est malheureusement très à l'ordre du jour, puisque les microparticules, la pollution, a des conséquences en pénétrant dans notre corps, mais des conséquences que l'on soupçonne quelquefois pas, n'est-ce pas ?
Et oui, il y a déjà eu pas mal d'études qui ont montré que les particules fines avaient un impact, notamment elles augmentaient le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes plus âgées, elles augmentent les problèmes pulmonaires, bien sûr, mais ce qu'on ne savait pas, enfin, il y a plusieurs études maintenant qui commencent à le montrer, c'est que chez les femmes enceintes, la pénétration dans le sang des particules fines est accompagnée, alors on ne sait pas s'il y a un lien de cause à effet, hein, c'est juste un constat, d'un risque accru pour l'enfant à naître d'être autiste ou d'avoir des troubles associés à l'autisme. Et ce risque, il est loin d'être faible puisqu'il a été calculé à un risque accru, il a été calculé comme étant un risque accru de 78%. Et ce n'est pas la première étude qui le montre. La dernière, celle dont je vous parle, est une étude qui a été menée par des chercheurs australiens, chinois, britanniques et québécois. Donc c'est vraiment une grosse étude internationale. Et ça pose problème. Alors, la seule chose, c'est qu'on nous parle beaucoup du diesel en ce moment et de ses particules fines, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier toutes les autres sources de pollution de particules fines. Hein. Il y a beaucoup d'usines, il y a aussi les chaufferies au bois dont on nous dit beaucoup de bien, soi-disant, mais le bois, ça rejette des particules fines et les filtres ne les arrêtent pas tous. Hein. On a bien sûr tout ce qui est véhicule, tout ce qui est aussi activité du BTP. On a la poussière routière, on a beaucoup de choses, voilà.
Et donc, on a aussi les bateaux qui rentrent dans les ports, et les portes-containers, et les avions qui sont au-dessus de nos têtes.
Et oui, et dont on ne parle pas souvent. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas et qu'ils ne polluent pas plus.
Bon, alors on va essayer de changer de sujet, de trouver quelque chose d'un petit peu plus gai. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui nous rassure un petit peu ?
Vous savez que là, il s'est jugé dernièrement un monsieur qui en était arrivé à tuer parce que ses voisins faisaient trop de bruit. Et on ne parle pas assez du bruit au travail. Je veux un petit peu du coq à l'âne, mais quand même, le bruit, c'est un vrai problème. Alors, quand on pense au bruit au travail, déjà, on pense plutôt aux gens qui ont un marteau-piqueur, qui ont des choses comme ça, donc aux maçons du BTP. Alors, c'est vrai, mais eux, en général, sont bien équipés, c'est-à-dire qu'ils ont des casques pour ça, ils ont des bouchons d'oreilles et on y fait attention. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête qui était présentée lors de la journée nationale de l'audition, à partir d'un sondage IFOP, et qui montrait que 59% des gens s'avouaient gênés par un bruit sur leur lieu de travail, mais surtout dans des secteurs où on ne les attendait pas du tout. Par exemple dans les services, pour 54% d'entre eux, et dans l'administration, pour 60% d'entre eux. Alors, pareil, on s'attendrait à ce que les plus gênés soient peut-être des plus âgés qui étaient habitués au calme, mais non, pas du tout. À 65%, ce sont les 18-24 ans. Et alors, la grande explication, bah, c'est celui qui a eu la grande idée des open space. Je ne sais pas, il n'a jamais dû travailler dans un open space, parce que par définition, comme c'est un espace ouvert où tout le monde se retrouve, c'est extrêmement bruyant et c'est très désagréable. Et tout ça, ça a des conséquences. Hein. Ce n'est pas juste un énervement sur le moment. Ce fond sonore qui est incessant et qui est imposé, puisque les gens ne peuvent pas y échapper, les trois quarts des participants déjà estiment que cela nuit à leur travail. Donc leur employeur devrait y prêter plus attention.
Eh ben aujourd'hui Nathalie, elle nous aide pas. Hein, elle nous aide pas. Elle nous dit qu'il faut plus qu'on respire dehors, il faut plus qu'on travaille dans le bruit. Bon, et moi j'aurais envie d'aller, j'allais me faire une toile. Hein, j'allais me faire une toile ce soir, parce que franchement là vous m'avez complètement découragé pour la journée, Nathalie.
Alors. J'ai pas dit tout ce que ça faisait. Ça entraînait des troubles de compréhension, une moindre perception des signaux d'alerte que quelque chose ne va pas, et donc de la fatigue, de la lassitude, de l'irritabilité, des maux de tête, de l'anxiété et bien sûr du stress. Et le stress, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc franchement, le bruit au travail, c'est un fléau.
Bon, je le dis à mon patron. Je dis à mon patron, mais j'allume la télé là parce que j'ai vraiment plus le moral là. Je vais me regarder, je vais me faire un bon film là. Je vais me faire un bon film. Allez, qu'est-ce que je peux prendre ?
Alors, si vous regardez un film triste, j'aimerais savoir, Jacques, est-ce que ça vous est arrivé de pleurer ?
Oui, je suis assez midinette là-dessus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Alors, c'est pas une question de midinette, hein. Ça arrive à plein de gens bien de pleurer, parce que c'est une question de niveau d'empathie que vous éprouvez pour les personnages, ou alors, aussi, ça peut être une identification au personnage clé qui a vécu la même histoire que vous, mais là, c'est un peu différent. Et alors, quand il y a une histoire d'empathie, ça explique aussi pourquoi, déjà, si vous pleurez sur telle scène et pour tel personnage, pourquoi votre femme pleure peut-être à un autre moment et pour un autre personnage, mais ça explique surtout pourquoi les psychopathes, eux, pleurent jamais. Ils ont, devant un film, ils n'ont aucune empathie et ça les rend absolument pas tristes du tout. Et alors tout ça, c'est une question d'ocytocine. Vous savez ce qu'on appelle l'hormone sociale. Ben, cette hormone, elle est libérée quand vous pleurez sur une scène comme ça, et cette hormone favorise les liens entre les personnes. Mais alors rassurez-vous, ça a quand même des bienfaits pour votre santé. Déjà, c'est plutôt utile à vos yeux, hein. Ça permet de bien hydrater votre cornée, de la nettoyer des poussières et des particules fines dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi une excellente arme anti-stress. Donc si vous avez envie de pleurer devant un film, Jacques, il faut surtout pas vous retenir.
Bon, ben, je sais plus quoi dire, là, hein. Vous m'avez oxy. Alors, ça veut dire que si on regarde un film et qu'on participe, c'est qu'on est plutôt compassionnel et empathique, alors.
Eh oui, au moins, vous n'êtes pas un psychopathe.
Ah ben oui, merci, c'est gentil. Ben voilà, ben, je vais arrêter là, parce que je pense que Nathalie, aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a eu, mais elle est pas en bonne forme, hein. Alors, on va laisser Nathalie en sa Bretagne d'adoption, et on va lui souhaiter une bonne journée, et puis bonne journée à tous, et puis peut-être un peu plus de gaieté la prochaine fois, Nathalie, non ?
On vous envoie du soleil, il fait très beau chez nous.
Oui, ben voilà, il fait toujours beau en Bretagne entre deux averses. Merci beaucoup, et à bientôt, Nathalie, au revoir.